Studio Tamani, toute la voix du Mali.
Studio Tamani, voici les informations en français.
Il pleut abondamment à Bamako depuis près d'une heure de temps. Bon réveil matinal à tous. Et dans la synthèse de l'actualité de ce mardi 15 août, grogne sociale, la coalition des organisations syndicales du secteur des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur prévoit d'observer une grève de 72 heures à partir du 30 août prochain. Au même moment, la plateforme des syndicats de la santé du Mali prévoit aussi d'aller en grève. En cas de décès du titulaire d'un compte bancaire, il y a des procédures que les héritiers doivent suivre pour rentrer dans leurs droits. Comment se passent ces procédures? Des éléments de réponse dans ce journal. À Bamako, les ménagères dénoncent la cherté de l'oignon au marché. Les vendeurs expliquent cette hausse par la rareté du produit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Au micro, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Mamadi Keïta. La coalition des organisations syndicales du secteur des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur prévoit d'observer une grève de 72 heures à partir du 30 août prochain. C'est ce qui ressort de son communiqué rendu public le 10 août dernier. Aussi, la plateforme des syndicats de la santé du Mali a déposé un préavis d'une série de grèves sur la table du gouvernement. Les détails avec Khalifa Goïta.
Les syndicats des travailleurs du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine et ceux des affaires étrangères indiquent que cette décision fait suite à un moratoire de 3 mois observé en réponse au temps demandé par le gouvernement. Ces deux syndicats exigent la majoration des indemnités annuelles et mensuelles d'équipement accordés au personnel des deux ministères et l'effectivité du mouvement diplomatique. La coalition prévient qu'en cas de non-satisfaction de ces doléances, la grève de 72 heures va débuter à partir du 30 août prochain. Elle menace de reconduire son mot d'ordre de grève autant de fois que nécessaire jusqu'à la satisfaction totale. Par ailleurs, la plateforme des syndicats de la santé du Mali exige l'adoption du projet de statut des agents de santé, la création de parcelles entre la fonction publique des collectivités et l'enseignement supérieur, le paiement des arriérés des BI appartenant entre autres. Faute de satisfaction, une première étape de grève est prévue du 28 août au 1er septembre, une seconde du 6 au 8 septembre et une troisième du 14 au 15 septembre.
Sur le même sujet, le Conseil des ministres a adopté le mercredi 9 août dernier un projet de décret portant institution du Conseil national du dialogue social. Ce conseil aura pour mission de maintenir le dialogue entre l'État et les syndicats des travailleurs afin de prévenir ou gérer les conflits. Le sociologue Yacouba Dogoni apprécie plutôt l'initiative et pense qu'elle va permettre d'apaiser les tensions et éviter de nombreuses grèves. Il est joint par Moussa Agma.
La création de ce conseil qui va non seulement réagir sur les revendications des syndicats, mais également pour essayer vraiment d'apaiser un peu le climat du travail au Mali. Si on arrive quand même vraiment à créer un véritable conseil avec les différentes couches, catégories socio-professionnelles, moi je pense que ça pourrait être vraiment un début de solution. La principale difficulté, c'est de pouvoir intervenir concrètement et de façon durable sur les syndicats de travailleurs de la fonction publique en gros. Donc, il faut peut-être penser à résoudre les problèmes de façon holistique et que l'État doit comprendre également que lorsque les gens sont en train de travailler tout en réclamant les droits, c'est vraiment d'intervenir pour pouvoir remédier aux crises.
Faites un tour sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Twitter. Vos critiques et suggestions sont les bienvenues. Le décès d'une personne met fin à la relation clientèle entre celle-ci et sa banque, affirment des banquiers. En cas de décès du titulaire d'un compte, les parents du défunt doivent informer sa banque qui bloque son compte. Dès cet instant, aucune opération ne peut être effectuée sur le compte de la personne décédée, indique-t-il. Alors, comment débloquer ce genre de compte et comment peut-on hériter du compte d'un défunt? Des éléments de réponse dans ce reportage de Alice Sissi.
Au Mali, pour débloquer le compte bancaire d'un défunt, il faut d'abord une déclaration de sa mort. Cette déclaration permet aux proches d'accéder au compte du défunt et d'établir des documents pour sa succession.
Si on établit un acte de décès, côté famille, ça aide. Sinon, c'est l'élément essentiel même.
Depuis le début, on savait qu'on devait faire la déclaration de son décès.
La déclaration auprès de la banque du titulaire est la première des choses à faire après la confirmation de son décès, a indiqué Dr Mamadou Guissé, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako.
Dans cet instant, le gestionnaire du compte au niveau de la banque va bloquer le compte pour éviter quelque mouvement que ce soit. Dans le second cas, toutes les personnes qui sont considérées comme étant véritablement des héritiers doivent bénéficier auprès de la justice d'un jugement d'hérédité.
Pour Ogo Tembelo Gindo, chargé conformité dans une banque de la place, cette déclaration de décès doit se faire dans un délai raisonnable avant la confiscation du compte par la BCAO.
La banque a l'obligation de tenir un compte qui est en mouvement et déclarer les comptes sans mouvement jusqu'à dans un délai de 8 ans. Après 8 ans, le compte sans mouvement, les fonds seront déclarés au niveau de la BCAO.
A noter qu'il existe plusieurs types de comptes bancaires. On n'hérite pas du compte en banque d'une personne décédée, précise le banquier.
Allons à Banamba où deux nouvelles mesures d'interdiction de circulation ont été prises par le préfet du cercle. C'était la semaine dernière au cours d'une rencontre sécuritaire avec toutes les forces vives de la localité. Il s'agit notamment de l'arrêt du trafic sur les axes Banamba-Boran-Touba-Kiban de 19h à 5h du matin. Un couvre-feu est aussi instauré dans la ville de Banamba à partir de minuit. On fait le point avec Juliette Koulibaly.
Ces mesures permettront de mieux contrôler la localité, a affirmé Mamadou Keïta, conseiller à la mairie de Banamba. Il invite la population à s'adapter à la nouvelle situation.
Banamba, aujourd'hui, fait partie des zones rouges du Mali. Donc, c'est des mesures qu'il fallait prendre pour toujours même. Quand il y a moins de mouvements à partir de 19h, vraiment, il y aura beaucoup plus d'attention à l'endroit des militaires qui sont là pour la sécurisation de la ville. Ça aura d'impact. Ils doivent s'organiser pour s'adapter.
Les transporteurs et les jeunes expliquent que ces mesures auront un impact sur leur activité, même s'ils se disent conscients de la dégradation de la situation sécuritaire. Écoutons successivement Minake Sempara et Mamadou Mohamed Diko.
Cette mesure nous dérange, mais nous prions Dieu pour que ça finisse bientôt.
Ça nous gêne un peu. Donc, comme ça, la jeunesse a droit aussi à faire certaines activités. Même s'il y a l'insécurité, il y a certaines zones dont il y a plus d'insécurité que Banamba. Il y a des manifestations qui se font.
Pour rappel, 3 personnes, dont un éducateur CE2, plus une centaine de bœufs, ont été enlevées la semaine dernière à Dandougou, dans le cercle de Banamba.
Cap sur Badjangara où les forces vives ont suspendu leur mot d'ordre de grève d'une semaine décrétée après la manifestation du 9 août dernier. Les négociations de sortie de crise ont été entamées avec le gouverneur de la région sur certains points de revendication. Il s'agit notamment du déploiement rapide des forces armées maliennes pour la sécurisation des axes routiers de la route nationale 15, la réinstallation du poste de sécurité de Mandali dans la commune de Barassara, le retour sans délai de tous les placé interne des communes de Barassara et de Doukombo. Parlons à présent du panier de la ménagère. Le prix du kilogramme de l'oignon a augmenté de plus de 200 francs CFA sur tous les marchés de la capitale. Cette flambée de prix qui atteint par endroits plus de 900 francs CFA n'est pas appréciée par les ménagères. Celle-ci demande aux commerçants de revoir le prix des produits de première nécessité. Un reportage de Fatoumata Bagayogo et Sita Sidibé.
Pour Cheikh Oumar Karambé, vendeur d'oignons au marché de Médine, cette cherté du produit s'explique par sa rareté sur le marché. Selon lui, les prix varient entre 750 et 900 francs.
Le kilogramme de l'oignon est cédé à 750 francs. Les sacs de 25 kilos est à 19 000 francs. Il y en a qui sont importés de Hollande et d'autres provenant d'ici. La culture de l'oignon ne se fait que pendant la saison sèche. Ce sont des difficultés.
Cette augmentation du prix de l'oignon est dénoncée par des ménagères rencontrée au marché de Médine. Selon elle, l'État doit sévir contre la spéculation des prix des produits de première nécessité.
Le prix de l'oignon est très cher actuellement. On l'achète en fonction de l'approvisionnement. Si on le trouve à 800 francs le kilo, nous le revendons à 900.
Nous achetons les oignons presque pourris, les kilos à 650 francs CFA. Et ceux qui sont bons sont cédés à 800 francs. Les grossistes ne nous font pas de remise.
Il faut noter également que les prix de certains légumes, comme la tomate et le chou, ont aussi connu une légère augmentation.
Parlons à présent de cette journée de reboisement organisée le week-end dernier à Kuchala. Elle a été initiée par l'association Droit et Citoyenneté pour la promotion du développement durable de Kuchala. Plusieurs dizaines de pieds ont été plantés. L'objectif, selon les initiateurs, est d'amener les populations à s'engager en faveur de la sauvegarde et la restauration de l'environnement. Elle visait aussi à attirer l'attention de la jeunesse sur les enjeux climatiques et écologiques. Les responsables du groupement ont promis de veiller sur ces arbres. L'activité s'inscrivait dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août dernier. Le difficile réveil matinal pour certains, c'est le sujet de notre rubrique Zoom sur une réalisation de Adama Amadou Haïdara.
Ce n'est pas tout le monde qui a ce don. Et oui, on va dire don parce que Hali qui doit être à son lieu de travail à 8h du matin, à 7h passées encore, elle est sous la couette. Même cas de figure avec notre ami Al-Hassan qui accourt à 7h30. Et pourtant, le réveil a sonné. Mais on se lève et on active le rappel. Nos deux amis Hali et Al-Hassan peuvent éteindre et activer le rappel au moins 4 fois. Et s'ils te demandent de les réveiller le matin, il faut s'armer de courage. Des va-et-vient interminables jusqu'à ce que tu parviennes à leur faire quitter du lit. Hali et Al-Hassan ne se lèvent à l'heure qu'avec les méthodes à l'ancienne de papa et maman. Vous avez compris, une bonne baffe, le coup de l'eau glacée ou encore le fouet. Et voilà, nos amis sont sur pied. Un réveil pas assez confortable, mais qui marche à tous les coups avec eux. Comme le dit cette citation, si votre voisin a l'habitude de se lever de bonne heure, vous devez vous-même devenir matinal. On ne sait jamais.
Eh bien, Adama, avec cette fraîcheur matinale, le réveil va être encore plus compliqué pour certains qui sont encore au lit. Ainsi prend fin cette édition qui vous a été présentée par Mariam Maïga. La mise en onde est assurée par Mamadi Keïta. Ne décrochez pas car l'info continue.
Voici un message pour les enfants et élèves du Mali.
Révisez et testez vos connaissances en calcul et en français. Pour cela, participez au G École à la radio sur Viamo.
C'est simple. Appelez gratuitement le 37 3 2 1 et laissez-vous guider par le service Viamo.
Tous les enfants peuvent participer au G avec l'autorisation de papa ou de maman. Vous pouvez vous servir de leur téléphone.
Le jeu École à la radio, c'est avec Studio Tamani,
le ministère de l'Éducation nationale, Viamo et l'UNICEF.
Quelle place pour l'intelligence artificielle dans notre société? C'est le sujet de notre magazine Malikoura, une réalisation de l'Alaïcha Wallet Infa.
Le développement des nouvelles technologies a permis de nombreuses innovations. Parmi celles-ci, l'intelligence artificielle. Bekay Sissé est informaticien. Il nous parle de l'intelligence artificielle.
Son but est de permettre alors à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Pour se rapprocher de ce processus le plus possible du comportement humain, l'intelligence artificielle a besoin d'une quantité de données importantes et d'une capacité de traitement élevée. Des systèmes capables d'effectuer des tâches qui requièrent normalement l'intelligence humaine, comme la reconnaissance vocale, la traduction des langues, la prise de décisions et la résolution des problèmes.
Ousmane Traoré est journaliste, reporter d'images et formateur sur les nouvelles technologies. Selon lui, on ne peut pas estimer l'utilité de l'intelligence artificielle. Car, dit-il, l'IA peut être utilisée dans plusieurs domaines.
Il n'y a pas qu'une intelligence artificielle, il y a beaucoup d'intelligences artificielles qui sont utilisées dans différents domaines. Que ce soit pour détecter les maladies, pour détecter les problèmes dans l'agriculture, pour aider à améliorer la productivité dans l'enseignement, pour aider les gens à apprendre plus vite, à accéder à la connaissance et à personnaliser même l'apprentissage. Donc tout ça, l'IA peut être intéressant et utile.
Le Mali a créé récemment le Centre pour l'intelligence artificielle et la robotique. Pour Ousmane Traoré, l'IA peut apporter à l'Afrique dans plusieurs domaines. mais à condition qu'elle soit contrôlée.
Sinon, oui, l'IA peut être intéressant pour l'Afrique, que ce soit avec l'éducation, la santé, la médecine.
Les individus seuls peuvent le faire, mais il faut que l'État soit là comme arbitre. Il faut que l'État soit là pour faciliter aussi la mise en place et l'exécution de ces programmes-là à grande échelle. On sait que le Mali aussi a inauguré le Centre pour l'intelligence artificielle et la robotique. Le problème aussi, il n'y a pas une certaine liberté de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, généralement.
Si l'intelligence artificielle offre d'énormes avantages, elle peut être aussi dangereuse. La lutte contre la désinformation est rendue beaucoup plus complexe avec les nombreuses possibilités qu'offre l'IA aux fabricants des fake news. Aliou Ndiallo est journaliste fact-checker.
On peut dire que l'intelligence artificielle offre quand même des possibilités à ceux qui veulent manipuler en leur permettant de créer des images ou en leur permettant de créer des vidéos ou d'attribuer des déclarations à des personnalités publiques. Donc, de ce point de vue, on peut dire que l'intelligence artificielle donne plus de possibilités et donne encore plus de défis à ceux qui sont dans la lutte contre la désinformation. Et au Mali, on en a vu des cas, surtout en ce qui concerne des vidéos qui sont fabriquées à l'aide des outils qui utilisent l'intelligence artificielle en ligne pour faire la désinformation.
Il faut signaler que les intelligences artificielles sont des robots, des algorithmes qui entraînent sur les connaissances humaines. Aussi, beaucoup d'IA ne sont pas toujours parfaites et peuvent avoir des biais négatifs.